Pour l'enregistrement, c'est bon? D'accord.
Merci, Luc. Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, il va falloir que je fasse un balayage d'enseignants prophétiques, de droite à gauche, de gauche à droite. Non, non, mais c'est pas un souci, parce que de toute façon, il n'y a pas assez de place en profondeur. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même... Mais c'est pas grave. Donc, du coup, si jamais je ne vous regarde pas dans les yeux, ne soyez pas vexés. C'est que juste, vous n'êtes pas dans mon... Voilà, au-delà de cela, je suis vraiment content d'être ici, et avec Nathalie, de découvrir l'église Josué. Parce que nous, Guebwiller, pour nous, c'était le collège Daniel. On est les vieux de la vieille, quand même. Et puis après, il y a eu l'église Josué, mais ça, c'est, on a entendu parler de loin. Et maintenant, nos yeux la voient. Mais ça fait au moins 20 ans que l'église existe, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Donc je rectifie ce que tu as dit tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Je crois même 31. La muraille, c'était 85-86. Quoi. Bon, on a pris un coup de vieux. Voilà, en tout cas, on s'occupe des jeunes. Et ça, ça reste sur notre cœur. Avant, j'étais jeune, maintenant, je suis moins jeune. Mais quand on s'occupe de l'université d'été, on s'occupe des jeunes. Enfin, la jeunesse au sens large, les jeunes ministères. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à chaque fois que je visite une église maintenant du réseau, j'ai des fans avec moi. Il y en a toujours 3, 4, 5, 6 qui sont là et qui ont fait l'université d'été et qui me soutiennent et tout. Donc c'est très encourageant. Donc merci pour le soutien. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas me présenter davantage. Luc l'a fait tout à l'heure. Juste pour vous dire qu'on est mariés depuis quelques années et on a 3 beaux enfants qui sont jeunes, mais plus tant que ça. L'aîné vient de faire 30 ans cette année, donc ça commence à faire. Voilà, on a 30 ans, 28 et 26. 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. On est basé à Toulouse, mais depuis que 4 ans, en fin de compte. Donc, on a parcouru un peu la France. Moi, je suis originaire de Normandie. Nathalie, plus ou moins, on s'est connus en Normandie lorsqu'on avait 15 ans. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Après, on s'est converti à Paris, parce qu'on vivait à Paris. On était dans le milieu artistique, en tout cas, artistique, le mot est fort, mais on était plutôt dans le milieu de ceux qui font la fête la nuit et qui dorment le jour. Et on s'est converti par la grâce de Dieu. Ça a été une révélation absolument fantastique. Je ne vous raconte pas notre conversion, mais on n'était pas du tout de famille chrétienne et de milieu chrétien. On n'avait jamais entendu parler de tout ça. Et le Seigneur nous a retournés comme des carpettes. Au point où, 2 ans après notre conversion, on était déjà investi dans le ministère. Moi, j'étais assistant pasteur d'une église pionnière au centre-ville de Paris, dans les années 80. Et tout a commencé comme ça, l'aventure a commencé donc à Paris. Et c'est là qu'ensuite, on a commencé l'école, etc. Donc, on a parcouru la France, on est parti de Paris, on est descendu dans le sud-ouest. On s'est installé un petit peu à Toulouse, on était passé au Canada avant. Et ensuite, on est parti à Auch et ensuite à Pau. Et à Pau, on a implanté une église. Donc, on a eu aussi toute cette expérience d'implantation d'église dans la ville de Pau. C'était entre 1999 et 2012. Et ensuite, on est revenu à Toulouse parce que le Seigneur nous appelait donc à travailler en collaboration avec cette équipe que vous connaissez un peu autour de Fabienne. Voilà, pour résumer un peu notre histoire. Je vais vous parler de la sacrificature. Vous êtes prêts? Vous êtes venus pour ça. Et la sacrificature, c'est un grand mot absolument incroyable parce qu'il ne se trouve ni dans la Bible, ni dans le dictionnaire. Ça commence bien. Je ne sais pas d'où il sort ce mot. C'est un mot charismato-philosophico-biblico. En fin de compte, le vrai mot, c'est sacerdoce. Le mot que vous trouvez dans la Bible et que vous trouvez dans le dictionnaire. Mais je pense qu'on ne l'utilise pas trop dans nos milieux parce que sacerdoce, ça fait un peu quand même ringard et ça fait surtout très catholique. Et comme on a dit qu'en fin de compte, il n'y a plus de sacerdoce maintenant, il ne faut pas qu'on réutilise ça. Mais c'est le vrai mot. Et la traduction en français courant, d'ailleurs si vous avez un livre, une Bible en français courant, vous allez avoir un groupe de prêtres saints. Ouais. Un groupe de prêtres saints. Intéressant. Donc, sacrificature, c'est une bande de prêtres. Et on peut rajouter « et de prêtresses ». Oula, un mot qu'on n'aime pas non plus. Prêtre, ça passe, mais prêtresse, ça passe pas du tout. Et pourtant, c'est la réalité. La sacrificature nouvelle dont on va parler aujourd'hui, elle est mixte. Alors que celle d'avant, elle était purement masculine. Ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi, parce que là, on part dans des débats qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, la réalité de ce mot, c'est bien sûr ce que Dieu a fait en Christ de son peuple. Il a fait de son peuple un saint sacerdoce et de son peuple entier. Si vous permettez, je vais enlever mon pull. Et si vous ne permettez pas, je vais l'enlever quand même. Pardon. Et avant d'entrer dans le sujet de la sacrificature, on va bien sûr s'arrêter sur le Seigneur lui-même, qui est notre souverain sacrificateur. Et en parlant de ce sujet, je voudrais vraiment qu'on essaye de sortir, on va dire, de nos sentiers battus, de tout, peut-être toutes les choses qu'on a reçues sur ce sujet, si vous avez reçu des enseignements, pour essayer de s'élargir à l'ensemble du plan de Dieu et du projet de Dieu en Christ. Parce que lorsqu'on touche la sacrificature, on touche en fin de compte quelque chose de très large. Alors je vais essayer pendant cette journée de ne pas m'éparpiller, de rester sur le sujet, mais c'est un sujet, vous allez le voir, qui nous ouvre des horizons très larges et qui va jusqu'au monde qui nous entoure. La sacrificature, on a souvent tendance à l'enfermer dans le temple, parce que c'est là où elle était située, dans l'Ancien Testament, mais on va voir très vite que la sacrificature nous élargit au projet de Dieu et au royaume de Dieu. Et on va étudier pendant cette journée la nouvelle sacrificature, celle de la nouvelle alliance. C'est une sacrificature qui est différente et bien plus large de celle de l'ancienne alliance, bien que celle de l'ancienne alliance, bien sûr, était l'ombre, était la préparation, et nous donnait déjà toutes les ficelles pour envisager cette nouvelle. On va voir donc les trois dimensions de la sacrificature, celle qui se passe, on va dire, dans le temple, et celle également qui se passe à l'extérieur du temple. Et comme le temple, c'est nous, voilà, c'est clair que l'extérieur du temple, c'est le monde qui nous entoure. L'Église, je vous rappelle, n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des personnes faites de chair et d'os, avec un esprit, heureusement, qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Je vous invite dans l'Épître aux Hébreux, c'est une épître, bien sûr, que l'on regardera beaucoup pendant cette journée. Et je vous invite au chapitre 3 et au verset 1er. Et on va poser quelques fondements bibliques, théologiques. Et ce verset-là est pour moi un verset fondamental de ce dont nous parlons aujourd'hui et même bien au-delà. Et on va le voir. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Petit verset d'introduction que j'allais dire que Paul utilise, on ne sait pas si c'est Paul, il y a de fortes chances que ce soit lui, mais peu importe, pour nous parler de Jésus et nous demander de considérer Jésus dans deux grandes dimensions de son ministère, de son office. Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et il nous invite à le considérer dans ces deux dimensions-là. Il faut le considérer dans son apostolat, et également le considérer dans son rôle et son ministère de souverain sacrificateur. Et pour avoir une vision globale, faut pas que je marche sur le fil, une vision globale du ministère de Jésus et donc une vision globale de l'Église, parce que nous sommes inséparables de Jésus, alors il nous faut considérer ces deux dimensions-là. Et la problématique de l'Église protestante, évangélique, dans un sens large, hein, je cible personne, mais notre problématique théologique, c'est que nous avons considéré Jésus à 80% dans son apostolat et peut-être à 20% seulement dans son ministère de souverain sacrificateur. Et 20%, je suis encore très positif, très optimiste. Dans certaines églises, on va dire que c'est 5%. La dimension de la sacrificature et 95% la dimension de l'apostolat. Pourquoi cela ? Eh bien, simplement parce que l'apostolat, c'est ce qui nous concerne directement. L'apostolat de Jésus, c'est quoi ? L'apostolat de Jésus, c'est la mission de Jésus. Vous savez qu'un apôtre, c'est celui qui est envoyé. C'est celui qui reçoit de Dieu un mandat, une autorité, une mission à accomplir et qui va, de la part de Dieu, accomplir sa mission. C'est une définition un peu large et simple. Mais Jésus est le souverain apôtre. C'est l'apôtre par excellence. C'est celui qui a reçu la mission. La plus grande mission qu'on ait pu recevoir de la part de Dieu, c'est de partir du ciel, de la présence de la gloire et de la majesté divine, pour venir sur la terre, s'incarner sous la forme humaine et accomplir l'œuvre de la rédemption. Et du coup, cet apostolat est devenu central dans notre théologie, bien évidemment, puisque nous sommes des évangéliques et que nous prêchons l'évangile, donc nous prêchons l'apostolat de Christ. Cet apostolat commence, j'allais dire, à l'incarnation, ou même avant, c'est au moment où il dit « Me voici, envoie-moi ». Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est en entrant dans le monde qu'il dit ça. C'est le début de son apostolat. Et ensuite, il s'incarne, il va vivre sa vie sans péché sur la terre. Il va servir le Père dans toute sa mission. Il va accomplir ce pourquoi il est venu. Il va manifester le royaume de Dieu. Il va guérir les malades. Il va faire toute cette œuvre fantastique. Il va enseigner les foules. Il va former ses disciples. Tout ça, c'est son apostolat. Donc, du coup, tout cela prend énormément de place dans notre enseignement, dans notre compréhension de ce que Jésus a fait et de ce que nous devons faire. Parce que tout ça, bien sûr, est continué par l'Église. Et l'apostolat de Jésus se termine, j'allais dire, en beauté. C'est pas vraiment le mot, mais bien sûr, par cette mission ultime de donner sa vie sur la croix. Et là, on est toujours dans l'apostolat de Jésus. Il devient l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est le but ultime de l'apostolat. C'est-à-dire de donner sa vie pour les autres. Y a-t-il des candidats à l'apostolat dans la salle ? L'apôtre, c'est celui qui donne sa vie. L'apôtre, c'est celui qui est en mission et sa mission va jusqu'au bout, va jusqu'au point ultime, ce pourquoi Dieu l'a établi. Alors bien sûr, on n'a pas à mourir sur la croix pour le salut du monde. Jésus l'a fait une fois pour toutes et pour toujours. Mais c'est toujours dans son apostolat. Ce qui veut dire que quand on considère Jésus à la croix, Jésus dans son œuvre rédemptrice, on est toujours dans cette dimension de l'apostolat de Christ. Seulement, ça ne s'est pas arrêté à ce moment-là. Parce que vous le savez, 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et il est resté encore quelques jours sur la terre, pendant 40 jours. Il a continué son apostolat. Il a enseigné ses disciples sur le royaume de Dieu. On aurait bien aimé avoir les cassettes. 40 jours d'enseignement de Jésus à ses disciples sur le royaume de Dieu. Vous pouvez imaginer ? 40 jours d'enseignement. Bon, on n'a pas les cassettes, mais on a les épîtres quand même. De toute façon, il y a un mystère. Je fais une parenthèse, parce que les 40 jours d'enseignement, Paul n'était pas là pour les écouter. Et pourtant, les épîtres, c'est Paul qui les écrit. Enfin bon, c'est un mystère, mais le Seigneur nous expliquera tout ça là-haut. Parce que Paul, il nous écrit des choses qui sont de la révélation haut de gamme. Bon, bref. Et je termine avec l'ascension. Jésus s'en va. C'est l'enlèvement de Jésus, il monte au ciel et il s'en va, il est d'un seul coup dans les nuages, il disparaît et il a laissé à ses disciples une mission. Et sa mission, leur mission est de continuer l'apostolat qu'il avait commencé. Donc du coup l'apostolat va devenir la mission de l'Église, la mission des disciples et bien évidemment se continue jusqu'à aujourd'hui hein, jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile a été annoncé et l'Église a continué ce travail fantastique. Seulement Jésus, il est vivant. Et Jésus, lorsqu'il arrive au ciel, eh bien, il va déposer sa casquette d'apôtre et il va prendre une autre casquette qui est celle de souverain sacrificateur. Et lorsque Jésus entre dans les cieux, il va faire la purification du tabernacle céleste, on en parlera tout à l'heure, avec son sang. Et donc il entre pleinement dans ce rôle de souverain sacrificateur. Vous savez que le souverain sacrificateur avait principalement pour rôle d'entrer dans le lieu très saint une fois par an, le jour du Yom Kippour, pour faire la purification. C'était le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Donc Jésus, lorsqu'il entre dans le véritable tabernacle, celui qui est céleste, celui qui est dans le ciel, eh bien, il accomplit une fois pour toutes cette purification avec son propre sang dans les cieux. Et il entre dans cet office de souverain sacrificateur. Et ce qui est étonnant, c'est que ce souverain sacrificateur, une fois qu'il a présenté le sang, il s'assoit à la droite de Dieu, sur le trône, et il reçoit l'autorité, la puissance et le règne sur toutes les cieux et sur toute la terre. Jésus le dira, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce qui fait qu'au ciel, nous n'avons pas un apôtre, nous avons un souverain sacrificateur qui est roi et qui réconcilie en lui-même les deux dimensions, on va dire, du projet de Dieu, du plan de Dieu, qui est la dimension du sacré, c'est-à-dire tout ce que nous devons vivre pour servir Dieu dans le temple, c'est notre sacrificature, et la dimension du profane, pour prendre un mot qu'on utilise souvent, sacré-profane, qui est la dimension royale, c'est-à-dire tout l'investissement gouvernemental du royaume de Dieu dans la société des hommes. Et Jésus est dans le ciel celui qui incarne en lui-même ces deux dimensions-là. Et il n'incarne pas ces deux dimensions en tant que Dieu uniquement, il les incarne surtout en tant qu'homme. Parce que la grande révélation, on va dire, de l'incarnation, si vous me permettez, c'est que Dieu s'est fait homme et que depuis qu'il s'est fait homme, il est resté homme. C'est-à-dire que l'incarnation, ce n'est pas une histoire de 33 ans sur la terre. L'incarnation, c'est une histoire qui a commencé lorsque Jésus est sorti du ventre de Marie et qui ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi lorsque Jésus ressuscite d'entre les morts, il dit bien à ses disciples, « Touchez-moi, touchez mon corps. » Voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Donc le Jésus ressuscité qui entre dans la gloire, il entre avec son corps de la résurrection. Dieu est esprit, vous le savez. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Eh bien, à la droite de Dieu dans le ciel, il y a un homme glorifié. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Il est le nouvel Adam, celui qui est introduit dans la présence de Dieu la nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité, c'est nous. Donc quand on parle de la sacrificature, on parle de considérer Jésus, non pas dans ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ça c'était son apostolat, mais c'est de le considérer dans ce qu'il est aujourd'hui, et donc ce qu'il fait aujourd'hui. Et du coup, ça introduit toute la dimension de l'Église dans son rôle de sacrificature et dans son rôle de manifester le royaume de Dieu. C'est une sacrificature royale dans laquelle nous sommes entrés par la grâce de Dieu. Cette nouvelle sacrificature, elle porte un nom, comme vous le savez, c'est la sacrificature ou le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est un nom aussi barbare que sacrificature, mais il faut l'utiliser parce que c'est un terme central à notre compréhension de ce que Dieu fait aujourd'hui et de ce qu'il veut donner comme dimension à son Église. Vous savez, le mot Église a été tellement utilisé, galvaudé, et on ne sait plus trop ce que ça veut dire l'Église. D'ailleurs, il y a des grandes remises en question de l'Église, et ça c'est une autre histoire. Et si on arrêtait de parler d'Église et qu'on parlait de sacrificature royale? Vous allez me dire, là, ça serait la secte du coin. Hein. Je ne vous dis pas de mettre ça sur le poteau, sur les linteaux de votre bâtiment. Nous sommes la sacrificature royale de Guebwiller, mais pourtant vous l'êtes. C'est notre identité véritable. C'est notre identité véritable. Vous savez qu'Église, ça veut juste dire assemblée. Hein. Ça ne veut rien dire, en fin de compte. Tandis que sacrificature royale, ça nous donne une identité et une mission. Et c'est pas rien. Alors, sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? On va s'arrêter quelques moments sur cette notion-là, sans aller trop dans le détail, parce qu'elle est assez... on pourrait vraiment passer des heures dessus. D'ailleurs, je fais une petite pub, parenthèse, nous avons une école qui s'appelle l'école Melchisédek, à Toulouse, qui a lieu tous les 2 ans. Et pendant 3 mois, on fouille ce sujet à fond. Donc si ça vous intéresse, il y a toujours possibilité de suivre cette école. En tout cas, Melchisédek, c'est très intéressant. On le trouve 3 fois dans la parole de Dieu. Ce mot, enfin ce personnage, apparaît 3 fois dans la parole de Dieu. Et une fois tout au début, dans la Genèse. Une deuxième fois dans un psaume. Et une troisième fois... tout à la fin, l'épître aux Hébreux. Donc c'est comme si c'était un fil conducteur dans les Écritures qui apparaissait fortement au début et fortement à la fin et qui était comme caché pendant la plus grande partie de la révélation biblique, sauf au moment où David va utiliser cette expression dans un psaume. Et je crois que c'est un fil conducteur caché parce que Dieu le révèle dans les temps de la fin. Le révèle dans les temps de la fin qui ont commencé depuis 2000 ans. Donc, je ne suis pas en train de révéler quoi que ce soit, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui était réservé pour l'accomplissement du projet de Dieu. Vous savez, la notion de mystère dans la parole de Dieu est très intéressante. Il y a plusieurs mystères, on pourrait développer ça. Le but des mystères n'est pas qu'ils restent cachés, mais le but des mystères, c'est qu'ils soient un jour révélés. Et la gloire des rois, c'est de cacher les choses, et la gloire du peuple, c'est de sonder les choses. Il y a un proverbe qui dit ça, je n'ai pas la référence. Dieu a caché des choses, mais pas pour nous les cacher. Il les a cachées pour qu'on les cherche, afin de les trouver. Et celui qui cherche, trouve. Et la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, je pense, est un mystère qui a été caché, et que le Seigneur nous invite à sonder, afin que nous entrions dans une révélation forte. Lorsque Paul va en parler dans l'Épître aux Hébreux, il va s'arrêter dans son enseignement. Il commence à dire, parce que Jésus a été fait souvent un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et puis d'un seul coup il s'arrête et dit, j'ai de nombreuses choses à vous dire sur ce sujet, mais vous avez encore besoin malheureusement de lait, et de revenir aux fondements, etc. Et cet enseignement qu'il va donner quand même après, en fin de compte, vous n'allez pas pouvoir le recevoir maintenant. Il faut que vous deveniez des maîtres. Et je crois que bien souvent, le Seigneur voudrait nous emmener plus loin dans une dimension de révélation, concernant Melchisédek ou d'autres dimensions de révélation, mais il ne le peut pas, parce que l'Église, en général, le peuple de Dieu, est resté dans des choses de fondement. Ou a besoin sans cesse d'y revenir. Alors les fondements sont importants, et les fondements sont essentiels, la grâce de Dieu, mais à un moment donné, Dieu veut que ces choses soient fondées, posées en nous, afin de construire et nous permettre d'aller plus loin. La révélation de Melchisédek est une révélation qui est différente sur les 3 textes dont nous parlons, parce que ce sont 3 textes très différentes dans l'aspect littéraire, l'aspect herméneutique du texte. Le premier texte, celui de la Genèse, c'est un récit, c'est une petite histoire. Assez étonnante, on le verra rapidement. Le deuxième texte, c'est un psaume, c'est un texte prophétique. Et le troisième texte dans l'Épître aux Hébreux, c'est un enseignement théologique. Donc on a trois fois l'histoire de Melchisédek, mais avec des textes très différents les uns des autres, et qui nous parlent à la fois d'une réalité bien concrète. Ce Melchisédek est venu sur la terre, et quelqu'un l'a rencontré, Abraham. Donc c'est une personne bien vivante. Ce Melchisédek est aussi une dimension prophétique messianique centrale à la compréhension de ce que Jésus est, et c'est ce que David nous dit. Il a été fait souvent un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et il le dit de manière prophétique. Et ensuite, c'est un enseignement théologique à creuser, et c'est ce que nous fait l'Épître aux Hébreux. Il y a plein d'autres enseignements dans les Épîtres, mais dans l'Épître aux Hébreux, il s'arrête là-dessus, il dit, les gars, ça c'est important, et il va le détailler. Donc c'est bien, on n'est pas juste dans un, on va dire, péjorativement, un délire prophétique charismatique. Non, on est dans des fondements théologiques bibliques lorsqu'on parle de ça. Le premier texte, hein, il se trouve bien sûr dans Genèse, il faut que je mette mes lunettes, 14, versets 17 à 20. On ne va pas le lire. Je vous rappelle juste l'histoire. Abraham étant parti en guerre, hein, et il est revenu vainqueur. Et alors qu'il va recevoir le butin de sa victoire, et qu'il va rentrer en tractation avec le roi de Sodome, d'un seul coup, un autre roi arrive, en plein milieu de cette histoire. On ne sait pas d'où il sort. Et ce roi est sacrificateur. Et déjà ça, c'est la marque de Melchisédek. C'est-à-dire que la sacrificature, selon Melchisédek, est royale. Donc Melchisédek porte en lui-même les deux dimensions. Il est sacrificateur et roi. Roi de justice, selon la signification de son nom. Roi de paix, selon le lieu où il habite, Salem. Roi et sacrificateur. Il vient à la rencontre d'Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui, comme vous le savez. Abraham, il est le père de tous ceux qui croient. Abraham, au moment où il rencontre Melchisédek, n'est pas encore juif, au sens strict du terme. Parce que la conversion, on va dire, d'Abraham de païen en juif, c'est le moment de l'alliance de la circoncision. À ce moment-là, hop, il passe, on va dire, de l'autre côté. Il est séparé de tous les hommes. Il y a juste un juif sur terre, c'est Abraham. Et bien sûr, sa famille aussi va en faire partie tout de suite. Donc là, cet homme-là n'est ni juif ni rien. Il vient de Ur en Chaldée. Et il est le père de tous les croyants. C'est-à-dire que nous avons tous notre origine en Abraham. Il est le modèle. C'est lui qui va introduire le principe du salut, qui s'appelle le principe de la justification par la foi. Quand est-ce qu'Abraham a été justifié par sa foi? Ce n'est pas au moment de sa circoncision. C'est avant. Et Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains. C'est avant. Donc, il englobe en lui-même, Abraham, le peuple juif et les nations. Il est l'identité humaine par excellence de ceux qui seront sauvés par la foi dans l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, ce Melchisédek, qui est souverain, sacrificateur et roi, qui apparaît en venant de nulle part et qui, nous dit l'Épître aux Hébreux, est un type de Christ, va bénir Abraham, le père de tous les croyants. Il vient à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin. Là, c'est pareil, c'est une toute petite histoire, mais qui en dit long. Il vient avec du pain et du vin. Alors que le roi de Sodome veut lui présenter toutes les richesses. La sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, nous introduit dans une autre dimension de richesse. Ce ne sont pas les richesses de la terre, ce sont les richesses du ciel. Et Paul en parlera en parlant des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Melchisédek arrive, il présente du pain et du vin. Le seul moyen d'obtenir les bénédictions spirituelles, les richesses du royaume de Dieu, c'est de passer au travers du pain et du vin que Melchisédek offre. C'est bien sûr la croix de Christ et l'œuvre de la rédemption. Et ensuite, Abraham va partager cette sainte scène, on va dire, avec Melchisédek. Et ensuite, Melchisédek le bénit. Et la bénédiction de Melchisédek à Abraham, c'est la bénédiction qui est sur tous les croyants. Parce que vous vous rappelez, dans l'Épître aux Hébreux, on n'a pas le temps de lire tous les textes, il est dit qu'en Abraham, il y avait toute sa descendance. Et il y avait en lui, bien sûr, Lévi, Aaron, et tous les autres, tous les sacrificateurs, et toute la descendance selon la chair. Mais l'Épître aux Romains nous dit aussi qu'en Abraham, il y a toute la descendance selon l'Esprit aussi. Ceux qui ont la foi, c'est-à-dire nous. Donc en Abraham, tout le peuple de Dieu est présent. Et donc Melchisédek pose sa main et bénit toute la descendance d'Abraham. La sacrificature selon l'ordre de Melchisédek est une sacrificature de bénédiction. C'est avoir le pouvoir de bénir. Quand tu es béni, tu reçois la possibilité de bénir en retour les autres. Et la bénédiction d'Abraham, elle est pour toutes les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous connaissez la promesse? Donc pour toutes les nations. La bénédiction d'Abraham, elle vient de Melchisédek. Et Melchisédek, c'est Jésus. Lorsque vous lisez dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, là aussi on ne va pas lire tout le texte, vous pourrez le lire à la maison, vous avez la description un peu de ce Melchisédek. Et il nous est dit, il est sans père ni mère, sans généalogie. Pour un juif, ça ne le fait pas d'être sans généalogie, vous savez, c'est tellement important. Mais celui-là, il n'a pas de généalogie, on ne sait pas d'où il vient, il n'a ni père ni mère. Et puis ensuite, là, il va plus loin et il nous parle d'un extraterrestre, parce qu'il nous dit, il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Plutôt le contraire, ni commencement de jour, ni fin de vie. Enfin, bref, il nous dit, il est éternel. Ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il vit éternellement et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc ce Melchisédek est ce qu'on appelle une théophanie en langage théologique, c'est-à-dire une apparition de Dieu en chair avant l'incarnation. C'est une expression que les théologiens ont créé, qui est très, très intéressante, vous pouvez l'étudier aussi dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il est parlé de l'ange de l'éternel, hein, c'est une théophanie. L'ange de l'éternel mange avec Abraham, etc. Donc c'est une apparition en chair, c'est un homme qui est là, mais cet homme est en fin de compte Dieu. Donc Melchisédek, c'est Dieu, deuxième personne de la Trinité, venu avant l'incarnation pour préparer le terrain, on va dire. Et il bénit déjà toute la descendance d'Abraham. Donc Jésus est présent en Melchisédek, il vient à la rencontre d'Abraham. Et vous rappelez, lorsque il est attaqué par les pharisiens, Jésus, sur le fait de son éternité, et il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham s'est réjoui dans l'idée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Il est en train de parler de sa rencontre avec Abraham. Quand je commence à parler de ça, il y a toute la Bible là qui défile, il y a tout dans ce sujet, c'est magnifique. Alors, il apporte du pain et du vin, il bénit Abraham, et la réponse d'Abraham, Abraham lui donna la dîme de tout. Je ne vais pas faire un cours sur la dîme, mais dans cette démarche d'Abraham, il y a un retour d'adoration. On ne peut pas être béni par Dieu sans revenir à Dieu pour lui offrir ce que nous sommes. Et la dîme est la symbolique, dans ce texte en tout cas, de la vie d'Abraham. Abraham donne sa vie en retour. Dans les 10%, il y a la notion de la vie offerte en retour. il y a le remerciement. Il y a l'action de grâce. Il y a une relation entre Dieu et l'homme qui est une relation de retour. C'est de lui que viennent toutes choses, c'est par lui que sont toutes choses, et ensuite c'est pour lui que sont toutes choses. Donc tout ce que tu as reçu va revenir vers Dieu. Et là, on est au cœur de la sacrificature. Et là, on est au cœur de la vie chrétienne. Ce que tu as reçu, tu vas le ramener dans la présence du Père. Et tu vas jeter tes couronnes à la fin, devant l'agneau. Parce que c'est de lui que tu as reçu toute chose. Et non seulement le salut, mais même la vie, le mouvement, l'être, les dons, les talents. Et tout cela lui revient en retour. Et c'est l'alliance de la sacrificature. Ce n'est pas une loi. C'est pour ça que la dîme, dans ce sens-là, n'est plus une loi. Mais c'est une relation d'alliance, un ordre relationnel de l'adorateur avec son Dieu. On va maintenant dans le psaume 110 et on va lire ce que David va dire concernant Melchisédek. Donc on est à peu près 1000 ans après Abraham. Et puis l'histoire de Melchisédek dans la Genèse, c'est, je crois, 6 versets, quoi. C'est tout petit comme histoire, c'est vraiment anecdotique. Quand on voit le nombre de pages sur Jacob, etc., je dis, Melchisédek, c'est tout petit. Donc 1000 ans après, notre cher David va ressortir le mot d'une manière étonnante. On va lire le texte. Le psaume, on lit tout le psaume de David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Ton peuple, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Incroyable ce psaume. Moi je dis souvent que David est certainement avec Moïse le plus grand des prophètes. Parce que lui il a prophétisé des choses messianiques absolument fantastiques, et notamment ce psaume 110. Il y a le psaume 2 aussi, il y a le psaume 45, il y a plusieurs psaumes de David qui sont des révélations pures et dures. Et David, il a le culot de prophétiser une parole de Dieu le Père à Dieu le Fils. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'un prophète, en général, il reçoit une parole de Dieu pour les hommes. Lui, c'est une parole de Dieu le Père qu'il donne à Dieu le Fils. Sympa, quoi. Hein ? Moi, j'oserais pas. Hein ? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. D'accord ? Donc, c'est une parole du Père, l'Éternel, à mon Seigneur, c'est le Messie. Hein. Donc c'est une parole de Dieu le Père à Dieu le Fils, à Jésus. Et cette parole, elle arrive dans un contexte qui est très très loin de Melchisédek. On n'en parle plus de ce Melchisédek. C'est une histoire qui est certainement oubliée. En tout cas, elle n'est pas réapparue à aucun endroit. Donc c'est de la prophétie pure, c'est de la révélation pure. Il parle du Messie et il commence son psaume, bien sûr, en parlant du règne. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Les psaumes messianiques et les textes messianiques nous parlent bien évidemment beaucoup plus d'un roi que d'un agneau ou d'un sacrificateur. C'est toujours des textes qui nous parlent de la royauté du Messie qui viendra pour libérer son peuple. Et c'est pour ça qu'Israël, à la première venue, attendait un roi qui le libère. Et ils n'ont pas compris ce que Dieu avait préparé. Malgré Ésaïe 53 qui était assez clair quand même, mais la grosse révélation messianique, c'est un roi libérateur qui vient, qui nous libère de nos ennemis, qui reprend le trône de David, qui se rassoit dessus et qui va gouverner la terre entière. Et c'est d'ailleurs la deuxième venue de Jésus qui correspond à l'accomplissement de cela. Donc il part sur cette révélation, hein, Dieu va étendre de Sion ton règne, tu vas dominer sur tes ennemis, et puis après on part dans une armée, hein, un peuple plein d'ardeur, une armée de guerriers, une jeunesse aussi, c'est intéressant. Et tout cela nous parle de ce roi qui va régner et qui va détruire ses ennemis, et puis d'un seul coup, presque comme un cheveu sur la soupe, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu seras sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. À l'époque, les rois et les sacrificateurs étaient totalement séparés. Les sacrificateurs étaient pris dans la tribu de Lévi et les rois, bien sûr, étaient pris dans la tribu de Juda. Les rois ne pouvaient pas servir dans le temple parce que leurs mains étaient pleines de sang. Vous vous rappelez, même David, il avait fait trop la guerre. Même le temple, il n'a pas pu le construire. Il y avait une séparation claire entre les affaires de la cité, les affaires gouvernementales et les affaires du temple. En tout cas, ça ne pouvait pas être les mêmes personnes. Il y avait une relation, bien sûr, entre les deux. Et David va entretenir cette relation. Mais les choses sont bien clairement séparées. Le temple est un lieu saint, trois fois saint. Et le gouvernement d'Israël est un gouvernement qui parfois agit selon la parole de Dieu et qui parfois fait n'importe quoi. Vous pouvez lire les livres des rois, il y en a qui marchent avec Dieu, il y en a qui ne marchent pas du tout avec Dieu, hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet intéressant. Petite parenthèse, quand Israël réclame un roi, le Seigneur plein d'humour lui envoie Saül. Il aurait pu envoyer David directement. Non, le Seigneur dit, tu voulais un roi, c'est tu me renies moi comme roi, je t'envoie un roi charnel. Débrouille-toi. Et ensuite David va arriver. Bon, bref, c'est une autre histoire. Je fais souvent des petites parenthèses, c'est juste pour vous donner envie de creuser d'autres sujets. On termine avec ce psaume et on va faire une petite pause. Lorsque David sort ça, il fait quelque chose d'étonnant. Il dit que Dieu a juré et qu'il ne se repentira jamais de cela, de faire du Messie un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il va reprendre, enfin, cette idée va être reprise dans l'Épître aux Hébreux, c'est que Dieu s'engage sur la base de deux choses. Il s'engage avec un serment et il s'engage avec une promesse. La promesse est faite à Abraham, le serment est fait au souverain sacrificateur, à Jésus. Et c'est sur la base de ces deux engagements, il y en a un vis-à-vis de son propre fils, Jésus, et là il jure, s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est jurer. Mais Dieu le fait, il peut se permettre lui, parce qu'il sait que ça va tenir bon. Mais quand même, il jure par lui-même que Jésus sera sacrificateur sur son trône pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Il faut se rappeler que Jésus quand même va partir dans l'incarnation. Il va partir en mission, il va faire son apostolat. Et tout cela, il le fait sur la base d'un engagement irrévocable de Dieu. C'est le serment qu'il sera sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, je ne sais pas ce que ça produit chez vous, ce que je vous dis. Moi, ça a produit un truc incroyable. C'est-à-dire que j'ai réalisé que non seulement Dieu est fidèle vis-à-vis de nous, mais il est surtout fidèle vis-à-vis de Jésus. Son engagement est envers son Fils, ce qui donne encore plus de force à notre foi et à la certitude de notre salut. C'est que Dieu ne va certainement pas renier son engagement envers son propre Fils. Qui est parfait pour l'éternité et qui a accompli la mission, qui ne s'est pas planté, qui n'a jamais péché, qui est l'image parfaite du Père, qui est l'apôtre parfait. Donc cet engagement, c'est un serment. C'est un serment qui est fait entre le Père et le Fils. Et ensuite, il y a une promesse. Et la promesse est faite à Abraham. Et dans ces promesses-là, il y a toutes les promesses de la parole de Dieu qui sont à saisir par la foi. Mais notre foi est encore plus grande lorsqu'on sait que les promesses que Dieu nous a faites sont basées sur un serment d'engagement entre le Père et le Fils. C'est juste pour fortifier un peu votre foi ce matin. Nous sommes dans une sacrificature de la foi. La foi, c'est Jésus qui l'a inaugurée. Et on le dit peut-être pas assez. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu par la foi. Il est venu et il a marché par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ça ne parle pas que de nous, ça parle avant tout de lui, c'est lui le juste. Il a vécu par la foi. C'est quoi la foi? C'est faire entièrement confiance à Dieu que ce qui est impossible à l'homme, Dieu va le faire. Et où est-ce que Jésus a mis cette foi en pratique d'une manière extraordinaire? C'est lorsqu'il a accepté de mourir et d'être séparé du Père sur la croix, en se disant, si jamais il m'abandonne, c'est fini. Donc la foi de Jésus, elle est là, elle est dans cette relation. Et au moment de la croix, Jésus a dû se souvenir du serment. Mais Dieu l'a juré, je serai sacrificateur pour l'éternité. Donc la croix n'est pas la fin. Et c'est pour ça que, en vue de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie, et il a traversé l'épreuve de la croix jusqu'à la séparation d'avec le Père. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est Dieu, par l'Esprit éternel, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Si ça, c'est pas de la foi, je sais pas ce que c'est. Jésus s'est engagé dans la mort, séparé du Père, et dit, maintenant, à toi Seigneur, à toi le job, à toi la suite. Et la foi, c'est ça. À un moment donné, on perd pied et on s'appuie entièrement sur lui. Et du coup, la sacrificature que Jésus inaugure, c'est une sacrificature de foi. Nous sommes ceux qui faisons confiance à Dieu sur la terre. Et nous rentrons dans la foi d'Abraham qui s'appuie sur les promesses. Et la foi d'Abraham, vous savez, elle est décrite dans l'Épître aux Romains. C'est la foi de celui qui peut ressusciter les morts, qui peut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y a tout un texte fantastique dans Romains 5, 4 et 5 qui nous parle de cette foi d'Abraham. Et c'est la foi de la sacrificature que nous sommes. Est-ce qu'on peut faire une petite pause de 5 minutes? Et puis après, bon, on finira à midi quand même, mais c'est juste pour breaker un peu. Merci. Y a-t-il des questions brûlantes juste sur ce sujet de Melchisédek là? Si jamais il y a besoin d'un éclaircissement, quelque chose qui vous n'avez pas bien compris. Soit j'ai été hyper clair, soit tellement compliqué que même pas besoin de poser de questions. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas, même en dehors, de venir me voir si vous voulez un éclaircissement sur quelque chose. Il n'y a pas de problème. Là, je suis conscient qu'on est dans des concepts un peu théologiques, mais c'est important de poser ces fondements-là pour pouvoir ensuite parler de choses qu'on connaît par cœur. Parce que la sacrificature, ça nous parle quand même de choses qu'on connaît. Adoration, intercession, là, là, là. Mais il faut les mettre en perspective. Et la perspective, c'est la sacrificature royale. Et donc, pour aller plus loin et détailler un peu cette nouvelle sacrificature à laquelle nous appartenons, on va prendre bien sûr le texte d'un Pierre au chapitre 2. C'est un texte que l'on connaît bien, on l'a souvent lu et utilisé. Et là aussi, c'est un texte clé et un texte fondamental pour la Nouvelle Alliance et pour ce qu'est l'Église. On lit le verset 4 et 5 et ensuite le verset 9 et 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors là, Pierre fait quelque chose d'étonnant, parce que c'est des notions qui ne sont pas apparues dans les évangiles et dans les épîtres quasiment nulle part. Il fait référence à la sacrificature de l'ancienne alliance. Il va reprendre des mots et des termes qui sont réservés au peuple juif et à la tribu de Lévi. Et il s'adresse là à l'Église des nations, hein, donc ce n'est pas une épître aux Hébreux comme celle de l'épître aux Hébreux, c'est une épître beaucoup plus large. Et il annonce à ces nations, à cette Église naissante, qu'elle est une race élue, qu'elle est un peuple à part. Il reprend les termes exacts de Deutéronome. Je vous donne la référence que je n'ai pas sous les yeux. Que je vous retrouverai. Je ne sais plus où elle est. Enfin, dans Deutéronome est repris exactement ce même terme. Un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Un sacerdoce pour Dieu, c'est ce que un sacerdoce royal pour Dieu, c'est ce qu'était appelé à être le peuple juif, et c'est ce que Israël a été, bien évidemment, pendant toute cette période-là. Et d'un seul coup, il l'élargit à l'Église et il utilise les mêmes termes. Et c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire, pour pas dire être une occasion de chute, hein, de plus, s'il en fallait, pour choquer, parce que là, il utilise des choses qui sont vraiment réservées au peuple d'Israël. Et ces termes sont forts. Hein. Un saint sacerdoce, une maison spirituelle, mais surtout au verset 9, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc ça veut dire que pour Pierre, et plus largement pour tous les apôtres, hein, qui ont suivi Jésus, qui ont reçu tout l'enseignement du Seigneur, l'Église a pour identité d'être un peuple de sacrificateurs, être un sacerdoce. C'est ce qu'est l'Église. Et pourtant, Pierre, c'est bien un évangéliste, on est bien d'accord. S'il y en a bien un qui est fondé sur l'apostolat de Jésus, c'est Pierre. Et pourtant, lorsqu'il parle de l'Église, il dit « c'est un sacerdoce royal, c'est une nation sainte ». Ce n'est pas juste des évangélistes qui guérissent les malades. L'Église, c'est beaucoup plus que cela. C'est un sacerdoce royal, un peuple saint. Et vous savez que ce texte est le texte fondateur de ce que les protestants et Luther notamment ont appelé le sacerdoce universel de l'Église. Sacerdoce universel de l'Église, c'est la doctrine qui nous dit qu'en fin de compte, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de prêtres qui sont intermédiaires entre le peuple et Dieu, mais que tous les membres du peuple de Dieu sont devenus des prêtres. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Nous sommes tous prêtres. Donc c'est le texte qui fonde ça, qui pose la base en disant que tous les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, peuvent s'approcher de Dieu. Merci. Peuvent s'approcher de Dieu et n'ont plus besoin d'intermédiaires. Ils peuvent s'approcher de Dieu pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir le pardon de Dieu, pour servir Dieu, pour prier, intercéder, être exaucé, on pourrait faire toute la liste. Ils n'ont plus besoin d'intermédiaires. Alors que dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu devait arriver au temple et s'adressait au prêtre pour avoir la faveur de Dieu au travers d'un sacrifice, etc. etc. Ça ne veut pas dire que les gens ne pouvaient pas prier de leur côté, mais l'aspect relation, réconciliation avec Dieu passait toujours par les prêtres et par les sacrifices du temple. Donc la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek est une sacrificature dans laquelle nous sommes tous investis. Il n'y a pas un groupe de prêtres dans l'Église. Il n'y a pas un groupe de lévites. Parfois, on a eu tendance à dire ça pour simplifier les choses en disant, bon, par exemple, les équipes de louange, c'est les lévites de l'Église. Non, pas du tout. Ce n'est pas les lévites de l'Église. C'est les musiciens et ceux qui ont reçu des talents pour nous permettre de louer Dieu ensemble. Mais vous pouvez très bien louer Dieu sans équipe de louange. Heureusement, on est bien d'accord. Équipe de louange, je ne jette pas la pierre, moi ça fait 35 ans que je fais partie des équipes de louange. Ce n'est pas un souci. Mais vous voyez ce que je veux dire, ce ne sont pas les lévites de l'Église. Même si certains parmi eux ont des talents qui nous aident à entrer dans la présence de Dieu, je vous rappelle que ce n'est pas la louange qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Et je jette un pavé dans la mare. On peut très bien louer le Seigneur pendant 5 heures comme hier soir et ne jamais entrer dans la présence de Dieu. Donc la louange n'a pas un pouvoir pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. C'est la foi dans le sang de Jésus. C'est la foi dans le sang de Jésus. C'est le seul chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Alors bien sûr, la louange est un support à notre foi. Elle édifie notre foi. Si tu chantes des chants de louange qui parlent de cet accès et de cette œuvre de Christ, ça édifie ta foi. Mais ce qui va te permettre d'entrer, ce n'est pas le chant, c'est ta foi. Bon, je ferme la parenthèse. Mais du coup, on a tous un rôle de prêtre. On est tous des lévites. On est tous appelés à servir Dieu dans le sanctuaire. Et on va développer ça cet après-midi et ce soir. On est tous appelés à servir Dieu dans le sanctuaire. Et c'est pour ça que le mot clé de ce texte, en tout cas le verbe clé, c'est approchez-vous. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, et vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est quoi ? C'est un temple. Ce n'est plus un temple fait de pierre, mais c'est un temple fait de chair. Nous sommes le temple, nous nous approchons de Dieu. Et cette capacité de s'approcher de Dieu, ça nous parle de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Vous vous rappelez ? Dans l'Ancienne Alliance, donc la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, les membres du peuple de Dieu qui n'étaient pas de la tribu de Lévi n'avaient accès qu'au parvis. Et encore, il fallait qu'ils arrivent avec un animal à offrir ou au moins un gâteau, quelque chose. Tu n'arrives pas à vide. Donc ils avaient accès au parvis. Ils ne pouvaient pas s'approcher plus près. Et pourtant Dieu était bien présent dans le tabernacle. Ensuite, les Lévites, c'est-à-dire cette tribu mise à part, ils servaient Dieu dans le parvis et ils pouvaient entrer, certains d'entre eux seulement, dans le lieu saint. Mais il y avait encore le voile qui les séparait de Dieu. Donc ils pouvaient s'approcher davantage, mais c'était encore limité et c'était pour accomplir un service bien défini. Et une fois par an, comme je l'ai dit tout à l'heure, le souverain sacrificateur, lui seul, entrait au-delà du voile et il pouvait s'approcher. Donc on était vraiment dans quelque chose de très sélectif et avec un interdit terrible à cause du péché, le voile qui était là. Et le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an, il n'était là que pour représenter le peuple. Il n'avait pas une relation privilégiée avec Dieu. Il était juste représentant du peuple pour l'offrande du sang, le moment du grand pardon. Alors que dans la nouvelle sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, non seulement nous pouvons entrer dans le parvis, non seulement nous pouvons entrer dans le lieu saint, mais si on s'arrête là, on est dans la religion chrétienne. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Le voile a été déchiré afin que nous puissions tous nous approcher de Dieu sans crainte du trône de la grâce et pouvoir l'adorer dans l'intimité de sa présence. Waouh! Et bien sûr, il faut lire Hébreux au chapitre 10. Là aussi, un verset que vous pouvez réciter par cœur si vous faites partie de la tribu de Lévi, c'est-à-dire des équipes de louanges. 10-19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et de temps en temps avec des chants. Vous voyez, il n'y a même pas la notion de louange. Là. Je suis en train de faire tomber le truc. Approchez-vous, c'est la même expression qui est reprise. Approchez-vous, et là on nous parle bien de l'entrée dans le lieu très saint. Le voile est déchiré par le sang, la route nouvelle inaugurée par Jésus, le sang de Christ, sa chair, là, il y aurait beaucoup à dire aussi, sa chair qui a été offerte à la croix, c'est un chemin pour nous afin que nous entrions avec nos corps, avec nos corps. Et on reviendra sur cette notion ce soir. Avec votre corps, entrez dans le lieu très saint, et pas le lieu très saint de la terre, pas le tabernacle de Moïse, le lieu très saint du ciel. Vous savez ce que c'est que le ciel? La définition biblique du ciel, c'est Jésus qui l'a dit. Ne jurez ni par la terre, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu. Donc entrer dans le lieu très saint, c'est avoir accès au trône. Et on se rappelle, le souverain sacrificateur, il est assis sur le trône. Entrer dans le lieu très saint, c'est entrer dans la salle du trône. Et vous avez remarqué, lorsque l'apôtre Jean a la révélation de l'Apocalypse, et que Dieu lui dit « Monte plus haut et je te ferai voir les choses qui doivent arriver », il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel, il entre, et la seule chose qu'il voit dans le ciel, c'est le trône. Dans le chapitre 5, je ne sais plus si c'est 4 ou 5, 4 de l'Apocalypse, il y a 11 versets, il y a 13 fois le mot trône. 11 versets, 13 fois le mot trône. Il ne voit que ça. Il est ébloui par le trône. Et il voit en plus autour du trône des trônes. Et les 24 anciens sont sur des trônes. Il y a des trônes partout. C'est un lieu de gouvernement. La sacrificature selon l'ordre de Melchisédek nous permet de nous approcher, bien sûr, de Dieu pour l'intimité de la relation, mais Dieu sur son trône, pour exercer avec lui le gouvernement spirituel dans lequel nous sommes appelés à entrer. Je reviens pour les 5 dernières minutes dans le texte de 1 Pierre. Et ce texte d'1 Pierre, j'ai fait exprès de lire deux parties du texte. La première partie, c'est le verset 4 et 5, qui nous dit de nous approcher de Dieu, hein, pour devenir une maison spirituelle, donc un temple, et pour offrir des sacrifices à Dieu. C'est la première dimension de la sacrificature. La dimension prioritaire de la sacrificature, c'est entrer dans la présence de Dieu, s'approcher de lui pour le servir, lui, en lui offrant nos sacrifices. On détaillera les sacrifices cet après-midi. Donc c'est la première dimension de la sacrificature, c'est servir Dieu. Mais le verset 9 et 10 nous donne une autre dimension de ce rôle de sacerdoce royal. Parce que là, il ne nous parle plus de nous approcher de Dieu, il dit au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui est appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est la deuxième dimension de cette sacrificature, c'est que le Dieu que nous servons, nous l'annonçons. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous connaissons, le Dieu à qui nous offrons des sacrifices, eh bien, il fait de nous la lumière du monde. Et nous annonçons ces vertus au monde qui nous entoure, nous qui étions dans les ténèbres et qui avons été appelés à son admirable lumière. Donc les sacrificateurs sortent du temple, si on peut prendre une image un peu géographique, ils sortent du temple pour aller annoncer et accomplir l'autre dimension du sacerdoce qui est la bénédiction des nations. Et ça a été lu d'ailleurs hier soir dans notre tabernacle de louanges, et on l'a même chanté au travers d'un chant, la bénédiction d'Aaron. Vous vous rappelez, à Aaron qui bénit le peuple. Les sacrificateurs avaient pour responsabilité de se tenir sur les marches du parvis et de bénir le peuple. Et en récitant cette bénédiction, que l'Éternel te garde, qu'il te bénisse, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde ta paix. Donc toute cette bénédiction-là, elle fait pleinement partie du rôle des sacrificateurs. Et c'est donc c'est ce peuple de sacrificateurs qui, sortant de la présence de Dieu, bénit la nation. Donc nous sommes sacrificateurs pour notre nation. Et là, ça introduit aussi tout un autre sujet qui est un sujet géographique, mais qui est intéressant aussi. On est sacrificateur pour la nation dans laquelle on se trouve. Pas uniquement, on peut tout à fait servir Dieu pour d'autres nations, mais prioritairement pour la nation où on se trouve. Y a-t-il des sacrificateurs dans le pays de France qui sont sacrificateurs de Dieu pour la France? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire, mais il y a quand même des intermédiaires. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Il y a quand même des intermédiaires, au moins pour le témoignage et pour l'annonce de l'évangile. Et puis il y a une autre dimension d'être intermédiaire, c'est l'intercession. S'ils ne prient pas, nous on peut prier pour eux. Christ est le seul intermédiaire pour le salut. Mais nous participons à la mission de Christ et à l'œuvre de Christ pour le monde qui nous entoure. Et donc la double dimension du sacerdoce royal, c'est sacrificateur et roi. Et on s'arrêtera ce soir sur la dimension royale de notre sacerdoce. Moi, je préfère utiliser le mot ambassadeur que roi, parce que je pense qu'il est plus fondé dans la compréhension de notre rôle dans les nations aujourd'hui. La royauté, c'est pour après. Nous régnerons avec Christ. Aujourd'hui, essaye déjà de régner sur ta propre vie, ça sera pas mal. Le royaume de Dieu commence à l'intérieur. Et on va essayer de gouverner la France une fois qu'on aura réussi à gouverner nos vies, nos familles, etc. Bon, bref. Ambassadeur, en tout cas, ça c'est clair, c'est ambassadeur d'un royaume, avec l'autorité déléguée du roi. Ça, il n'y a aucun souci, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je préfère utiliser cette expression. Mais bon, c'est juste une question de mots. Les enseignants aiment bien les mots. Important les mots. Bon, bref. Il est l'heure. Je termine avec une dernière notion. Un sacerdoce, c'est quelque chose qui se vit ensemble. Nous sommes sacrificateurs. J'ai cherché dans les concordances. Le mot sacrificateur est quasiment toujours au pluriel. C'est très très rare de l'avoir au singulier. Quand tu l'as au singulier, c'est souverain sacrificateur. C'est Jésus. Les sacrificateurs sont toujours un groupe de prêtres. Un sacerdoce, c'est justement pour ça qu'il y a un mot, c'est plusieurs personnes ensemble. Donc ça nous parle de l'Église et ça nous parle de notre responsabilité communautaire dans le sacerdoce. Dieu nous veut ensemble dans sa présence. Et là aussi, l'Église évangélique, j'ai rien contre elle dans un sens doctrinal du terme, a tellement insisté sur le salut personnel, sur le culte personnel, sur la relation personnelle, sur le truc tout seul avec Dieu, qu'on peut très bien s'en contenter. Alors que vous ne le trouvez pas dans l'enseignement des apôtres. Et vous ne le trouvez quasiment pas dans les actes des apôtres, qui est quand même ce qui nous reste de la première Église. Ils étaient un petit peu toujours ensemble, les gars, quoi. À la fin, ils en avaient peut-être marre, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont trouvé une doctrine plus simple, parce que c'est compliqué d'être ensemble, on est bien d'accord. Mais Dieu nous considère, et c'est ce que nous dit le texte, comme une nation, comme un peuple, comme un groupe, on est ensemble. Et l'individualisme de nos temps modernes là, et de notre période actuelle est en train de tuer cette notion-là. Et le Seigneur insiste pour que nous retrouvions toute la dimension communautaire et la dimension de l'amour. Ça sera un autre sujet, mais je le donne juste en tout. C'est un sacerdoce ensemble. C'est pas moi tout seul, intercesseur dans, perdu dans ma chambre, bien que ça, il faut le vivre aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a une dimension communautaire qui est essentielle dans le sacerdoce, qu'on retrouve dans la dimension des maisons de prière. C'est ensemble. C'est ensemble. Nous rendons un culte à Dieu ensemble. Et la visitation de Dieu, elle vient lorsque nous sommes unis ensemble dans sa présence. Je termine avec ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis.